Inter, le 5-7.
La Hongrie est donc allée trop loin aux yeux des députés européens. Le Parlement de Strasbourg a décidé d'ouvrir une procédure pour sanctionner la politique anti-migrants et liberticide de Viktor Orban, et c'est rarissime. Bonjour Guillaume Clossat.
Bonjour Mathilde.
Vous êtes fondateur du groupe de réflexion Europa Nova, également président du mouvement citoyen Civico Europa. Alors en théorie, la Hongrie peut perdre tout poids dans les instances européennes. Elle peut être privée de ses droits de vote au Conseil. Mais ça, c'est sur le papier. On n'en est qu'au début du processus. Il y a encore plusieurs étapes à franchir. Franchement, le vote d'hier, c'était pour le symbole, non ? C'était pour marquer le coup ?
Je pense que le vote d'hier, il est très important. D'abord, c'est la première fois que le Parlement européen fait une telle résolution pour exclure potentiellement un pays.
Il y a déjà une procédure pour la Pologne, mais ça venait de la Commission.
Mais ça venait de la Commission.
On est d'accord.
Et puis, il y a une procédure, il y a quelques années, pour l'Autriche. Le sujet, c'est que le PPE, qui est le bloc charnière du Parlement européen et au sein duquel les équipes d'Orban, le Fidesz, son parti, a décidé de voter majoritairement contre le parti d'Orban. Et ça, c'est une rupture. C'est une rupture et c'est un avertissement à Orban, en gros, qui lui dit soit tu respectes l'état de droit, soit tu sors du parti. Et si tu sors du parti, bah, tu assumes tes alliances et si tu veux aller avec Salvini et avec les autres, tu vas avec les autres. Mais tu ne fais plus partie de la grande famille des principaux premiers ministres du continent. Et donc, c'est un signal de marginalisation envoyé à Orban, et un appel de retour à l'ordre.
Mais sur la procédure en tant que telle, donc cette procédure de sanction, donc je disais, ce n'est que le début, il y a encore d'autres étapes, il y a peu de chances que ça aille au bout.
Il y a peu de chances que ça aille au bout, mais politiquement, ça va avoir des conséquences. Et Orban, il y a encore quelques semaines, ne pensait pas se retrouver dans une situation pareille. Ça veut dire que le PPE...
Donc la droite ?
Donc la droite européenne, au Parlement européen, les grands partis sont le PPE, l'ALDE, les libéraux, les verts, et puis le PSE, les socialistes.
Et la droite est majoritaire.
Et la droite est majoritaire. Ça veut dire que le PPE a décidé de faire le ménage en son sein. Et si on enlève les députés Fidesz, 75% des députés qui ont voté contre Orban. Ce qui est considérable. Ce qui est considérable. Mais c'est aussi, à mon avis, un sursaut et une réaction à la volonté de Macron, qui avait stigmatisé le PPE, de développer une force centrale. Et mon sentiment, c'est que le PPE est en train de se ressaisir et même en train de discuter avec certains membres de l'ALDE,
le
parti libéral, pour augmenter ses forces.
Donc une recomposition, de la droite et du centre, c'est ça
l'idée. De la droite et du centre, initiée par le PPE.
Mais le vote d'hier, est-ce qu'il peut faire réfléchir Orban, voire le faire fléchir ?
En tout cas, ce qui est intéressant, si vous avez écouté les propos d'Orban la veille, c'est que déjà, il était beaucoup plus précautionneux. Donc, on voit en tout cas qu'il y a une réflexion, un fléchissement, je ne sais pas. La réalité, c'est que la Hongrie, depuis 8 ans, qu'Orban est revenu au pouvoir, devient de plus en plus un pays autoritaire, peut-être pas encore totalitaire, mais où la liberté de la presse, sujet que je connais bien, où les marchés publics, où la justice sont sous son influence directe, et que ça, c'est fondamentalement contraire à l'esprit européen. Et que si les Européens continuent à laisser monter les autoritarismes un peu partout en Europe, eh bien, c'en est fini du projet européen.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque, au contraire, que le fait de les marginaliser en prenant ce genre de sanctions, ça renforce les populismes, ça gonfle leur électorat et qu'ils vont dire, voyez, on est des parias et tout, l'Europe ne comprend rien à nous. Voilà, il n'y a pas un effet boomerang qui est à craindre ?
Il y a bien sûr un risque, mais il est déjà en situation électorale très bonne. Et donc ces partis sont déjà...
Mais pas que lui, en fait, dans d'autres
sûr,
pays.
Mais Salvini, en Italie, lui, les Polonais, donc le parti de droite très conservatrice, le PiS polonais, sont déjà en situation électorale très forte et sont en train de voir comment s'organiser pour miner l'Europe. Et donc le sujet, c'est soit les démocrates organisent une contre-offensive, soit ils laissent faire. Jusqu'à présent, ils avaient laissé faire. Et quand je dis démocrates, c'est aussi bien les libéraux que la droite et le centre, que les verts ou les socialistes. Soit ils réagissent et ils organisent un front commun des pro-démocrates, ce qui ne veut pas dire qu'ils gomment leur nuance, pour faire primer l'ADN européen qui est la démocratie.
Et jusqu'à présent,
ça avait été le silence total. Et donc, ont laissé finalement monter et s'organiser tout seul les mouvements nationalistes de droite.
On n'a pas su réintégrer les mouvements qui voulaient s'exclure de l'Europe, c'est ça ?
Je pense qu'il y a un sujet de fond, c'est que des pays comme la Hongrie, comme la Pologne avaient envie de jouer un rôle au sein des institutions européennes beaucoup plus fortes. Et je me rappelle de discussions que j'ai eues avec des gens du parti d'Orban, où ils se présentaient encore comme libéraux, ils n'étaient peut-être pas déjà, mais il y a une quinzaine d'années, et où ils avaient envie d'être agrégés, d'être inclus dans le moteur franco-allemand. Et ça, on n'a pas su le faire. Et puis,
Moteur franco-allemand n'a pas été à l'écoute des petits pays, entre guillemets.
Du tout, mais depuis 20 ans.
Et c'est aussi l'un des nœuds du problème.
C'est un enseignement, c'est-à-dire que le moteur franco-allemand doit se repenser de manière beaucoup plus inclusive. Et puis, un autre enseignement, c'est que je pense qu'il ne faut pas stigmatiser du tout les populations. Ce n'est pas les Hongrois qui sont stigmatisés. Il faut voir que aussi bien en Hongrie qu'en Pologne, il y a des sociétés civiles très fortes qui sont contre Orban. Rappelez-vous qu'il y a un peu plus d'un an, il y a eu un référendum en Hongrie qui n'a pas été validé parce que massivement, les gens ont décidé de ne pas aller voter. Donc il ne faut pas oublier cela non plus. Et à cela, on n'a pas donné beaucoup de signaux. Et donc, pour que cela se mobilise, eh bien, il faut que les Européens se mobilisent. Et c'est la première fois, finalement, que, sur le cas hongrois, on commence à agir. Je dirais que c'est une bonne nouvelle, et je ne crains pas que ça facilite la montée des populistes, parce que, en fait, si vous regardez les positions des Italiens populistes ou des Hongrois, ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts. Donc, ponctuellement, ils peuvent s'unir, peut-être, pour l'élection et essayer de miner l'Union, mais sur le long terme, ils ne tiendront pas.
C'est quoi ce qui les rassemble ? C'est leur façon de voir la crise migratoire et de vouloir la gérer.
C'est leur autoritarisme, c'est l'utilisation de la crise migratoire pour gagner de l'électorat. C'est une certaine façon de vouloir la gérer, mais elle est différente. Prenez le cas hongrois et le cas italien. Les Italiens et Salvini ont intérêt à une réponse européenne, avec des polices de frontières européennes et des quotas, une répartition de ceux qui rentrent en Italie dans les autres États membres. Les Hongrois sont complètement contre. Donc même sur le sujet migratoire, ils sont très divisés. Et donc le sujet, c'est que les pro-démocrates, eux, doivent apporter des solutions et prendre la mesure des sujets. Et il est vrai que le sujet migratoire au niveau européen n'a pas été pris à sa juste mesure jusqu'à présent, pour une raison très simple, c'est que les chefs d'État et de gouvernement, le Conseil, je ne parle pas de la Commission, ont refusé depuis 4 ans de se mettre d'accord sur une analyse commune de la réalité migratoire, des défis à court et moyen terme.
Ils ont fermé les yeux, ils n'ont pas voulu voir la réalité.
Non, mais ils ont refusé même qu'un groupe de haut niveau, des intellectuels, des spécialistes des migrations, ont proposé de faire une sorte de GIEC migratoire pour qu'on ait une compréhension du sujet. Et aujourd'hui, sur le sujet migratoire, on agit comme sur des bases qui sont imprécises, parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur l'analyse du problème, sur la réalité et sur les défis. Pourquoi ? Parce qu'il fallait d'abord montrer qu'on agit, et puis après, en agissant et en montrant que c'était inefficace, puisqu'on agissait sans connaître la réalité, eh bien, les dissensions au sein des pays européens se sont accrues. Et je pense que le moment est venu, maintenant, d'avoir une approche réaliste et pragmatique des migrations fondée sur des analyses concrètes.
Et c'est ce que vous allez dire à Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, que vous allez voir juste après, là, vous prenez le train juste après cet entretien.
Je vois cet après-midi, mais en effet, je vais lui dire ça, et puis je vais lui dire une autre chose, c'est que 70 ans après le congrès fondateur de l'Europe, qui s'appelait le congrès de La Haye, il est important que tous les démocrates en Europe, quelle que soit leur sensibilité politique, que les intellectuels, les artistes, les patrons, les syndicalistes, les citoyens, se rassemblent pour donner un signal à l'opinion publique d'une refondation du projet européen.
L'Europe, c'est pas qu'une question de politique.
C'est une question d'hommes et de femmes d'abord. C'est nous les Européens.
Merci beaucoup Guillaume Clossa, fondateur du groupe de réflexion Europa Nova. Vous étiez l'invité du 5-7 de France Inter.